Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Si au Tchad, les femmes stériles sont encore stigmatisées par la société, au Sénégal, une série télévisée, Yaï 2.0, diffusée jusqu'en septembre, a pris le risque de s'attaquer à la question de l'infertilité masculine. Une question délicate, notamment en Afrique, que celle de l'infertilité, qu'elle soit masculine ou féminine. Quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, l'épouse en est très souvent tenue pour responsable par sa belle-famille. Qu'en est-il dans votre pays? Ce sujet reste-t-il tabou? Pour quelles raisons et avec quelles conséquences? On lance tout de suite le débat. Charline, bonjour. Charline ?
Oui, allô, bonjour Chantal.
Bonjour, vous nous appelez de Libreville. Comment est perçue l'infertilité au Gabon ?
Bon, au Gabon, quand un couple est infertile, c'est toujours à cause de la femme. L'homme n'est jamais infertile, l'homme n'a pas de problème de stérilité, c'est toujours la femme qui est marginalisée, c'est toujours à cause de la femme. Parce que pour les bons parents, parce que le problème se cause toujours au niveau de la belle famille, dans la famille du mari, on a épousé une femme et il faut qu'elle nous fasse des enfants. On ne cherche pas pourquoi le couple n'a pas d'enfants, surtout si au bout de 5 ans, il n'y a pas d'enfants, on commence à regarder la belle-sœur. Au bout de 10 ans, c'est la troisième guerre mondiale. On ne pose pas les questions, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne se demande pas si c'est l'homme ou si c'est la femme. Alors que dans la plupart des cas, c'est le mari, c'est l'homme aussi. La femme n'est pas toujours coupable.
En fait, la responsabilité, entre guillemets, hein, incombe à pourcentage égal entre la femme et l'homme, c'est ce que nous apprennent les études. Mais est-ce que les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ont quand même le courage d'aller consulter, d'aller voir un médecin, peut-être en cachette de la belle-famille, mais au moins d'aller chercher une explication médicale ou scientifique?
Vous savez, chez nous, quand on parle de gynécologue, pour le commun, le gynécologue, c'est pour la femme. Donc la femme, elle va toujours consulter, la femme va toujours chercher pourquoi elle n'arrive pas à concevoir, pourquoi. Mais quand le gynécologue demande souvent de venir avec le mari, vous avez des moments où il y en a qui acceptent d'y aller. D'autres vont vous dire, mais moi, je veux faire quoi, chez un gynécologue? Non, les gynécologues, c'est pas pour moi, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes, elle va te débrouiller là-bas. Mais il y en a qui ont le courage d'y aller, et quand ils y vont, on trouve peut-être que le problème vient de l'homme. En aparté, dans la cuisine, dans la chambre, le mari dit à la femme, bon, si c'est moi le problème, va même dans une autre province, va chercher quelqu'un là-bas, tu reviens avec une grossesse, et puis c'est mon enfant, on gère ça comme ça.
Ah oui, on a encore recours à ce genre de subterfuge.
Oui, parce que c'est, vous savez, c'est la stérilité. Quand un couple est infertile, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que c'est la femme, elle est vraiment infertile, c'est bon. Dans l'autre cas, c'est l'homme et la femme refuse d'aller voir ailleurs. Elle accepte d'être fidèle et elle ne veut pas aller voir ailleurs. Mais dans certains cas, quand le mari sait qu'il est infertile, il demande à la femme d'aller voir ailleurs et puis c'est un secret de couple, ça reste comme ça, on gère ça comme ça. Le plus important, c'est que les gens ont vu que ma femme est enceinte, elle a eu un enfant et puis c'est mon enfant. Surtout que chez moi au nord du Gabon, il y a un proverbe qui dit que l'enfant n'est pas celui de celui qui l'a engendré. L'enfant appartient à celui qui l'a élevé. Donc...
Et Charline, est-ce qu'il est possible au Gabon de recourir aux fécondations in vitro ou bien à l'insémination artificielle?
Et aux fécondations in vitro, on a mère-enfant qui nous en fait déjà, je crois. Mais ça coûte combien? Ça coûte les œufs de la tête.
Ça coûte cher.
Oui, ça coûte cher. Un Gabonais économiquement en fait ne peut pas ne peut pas faire des fécondations in vitro, c'est pas possible.
Et est-ce que l'adoption
est de toute une vie?
Et est-ce que l'adoption peut être une solution?
Bien sûr, l'adoption peut être la solution parce que l'adoption, dans le cas de l'adoption, tout le monde est gagnant. La famille, le couple qui a besoin d'un enfant gagne un enfant. Alors qu'il y a un enfant quelque part dans la nature qui a besoin d'amour, qui a besoin d'une famille. Donc vous voyez que si on facilite l'adoption, Les orphelinats vont se vider et les familles, les couples seront heureux parce qu'on aura eu des enfants, on aura des enfants, mais même l'adoption est assez compliquée.
Merci beaucoup Charline d'être intervenue et permettez-moi de vous souhaiter de la part de toute notre équipe un très joyeux anniversaire à Libreville.
Oh là là, merci beaucoup.
Bon anniversaire et bonne journée,
merci.
Charline.
Merci beaucoup à RFI, merci.
On a reçu beaucoup de messages sur WhatsApp. Latif de Lomé nous écrit « Dans beaucoup de familles en Afrique, les gens n'admettent pas l'idée qu'un homme viril puisse être infertile. C'est ce qui explique le fait que lorsqu'un couple n'arrive pas à faire d'enfants, on a vite fait d'accuser la femme de stérilité. Mais les mentalités évoluent. Il y a une prise de conscience générale maintenant. Ce n'est plus du tout étonnant de voir les hommes en consultation pour soigner leur infertilité de nos jours. Alpha de Conakry, chez nous en Guinée, c'est un sujet qui est vraiment tabou et il y a trop de divorces à cause de cela car les hommes accusent toujours les femmes. L'homme ne va jamais consulter, c'est vraiment regrettable. Pacôme de Kamina en RDC, chez nous les enfants constituent une richesse. La femme qui ne donne pas des enfants est considérée comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Et puis Marcelin à Lomé, c'est un problème général en Afrique et particulièrement chez moi au Togo. La stérilité d'un homme est toujours cachée, tandis que celle de la femme est toujours révélée. Dès que le couple ne conçoit pas, sans analyse médicale préalable, la femme est tenue pour coupable et la belle-famille ne cherche même pas à connaître les causes. C'est ce que nous disait Charline aussi à l'instant. Il est rare qu'une femme dise que son mari est stérile et elle risquerait d'être chassée du foyer conjugal, ajoute Marcelin à Lomé. On va partir pour N'Djamena, retrouver Gédéon. Bonjour.
Bonjour Chantal Leroux et permettez-moi de dire aussi bonjour à Juan Gomez qui est en vacances certainement.
Absolument, pour quelques jours encore.
Ah
ben voilà, tout le monde a eu votre bonjour. Gédéon, est-ce que l'infertilité reste un sujet tabou au Tchad ?
Oh, l'infertilité reste un sujet très tabou et la société n'accepte pas ça. La famille nucléaire d'abord et ensuite toute la société même. N'accepte pas la belle famille encore, c'est pire.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre cas personnel, Gédéon ?
Bien entendu, moi j'ai eu ce cas pendant 12 ans, 4 mois et 4 jours, exactement. C'est-à-dire que j'ai vécu une vie de couple avec une femme dont nous avons passé 12 ans, 4 mois et 4 jours.
Donc vous avez été très heureux, vous avez été très heureux ensemble ?
On était très heureux les 2-3 premières années.
Ah.
La 4e année, eh bien... les familles s'indexent dans notre couple, que ce soit du côté de ma famille ou que ce soit de la côté de la famille de mon épouse. On se dit, bon, écoutez, il va falloir avoir un enfant. Nous, on a besoin d'un héritier, on a besoin... C'est ça, l'enfant est le signe du succès de couple et de la famille.
C'est la preuve de la réussite d'un mariage, en fait.
Bien sûr. Et là, vous voyez, surtout généralement avec les belles-sœurs. Hein. Les belles-sœurs, elles n'acceptent pas ça, elle donne ce genre de paroles telles que « toi tu manges pour rien, tu remplis le double WC, tu ne nous fais pas d'enfants, ça ne sert à rien ». Et on n'a même pas cherché à savoir est-ce que ça vient de l'homme ou de la femme. Bien entendu, pour mon cas, quand j'étais encore au lycée, j'ai eu affaire à des enfants, donc immédiatement on s'est dit « non, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de la femme ». Mais nous sommes appelés à faire des examens médicaux. Nous sommes allés, nous avons fait des examens médicaux, mais en réalité, ça ne vient ni de moi ni d'elle, puisqu'en fait, elle avait toujours conçu, mais qu'elle faisait des fausses couches. Mais bien entendu, sa famille, pour elle, n'a pas voulu carrément.
Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, Gédéon, finalement ?
Finalement, ils sont venus, ils ont évacué ma femme. Ils sont venus à la maison, ils ont ramassé les affaires de ma femme. Ils ont dit, mais écoute, tu dois te débrouiller ailleurs. Et moi, je suis resté 3 ans plus tard, je me suis remarié. Nous avons également 2 enfants, Jessica et Junior.
Mais Gédéon, pourquoi ne vous êtes-vous pas opposé à la famille quand elle est venue reprendre votre épouse ?
Écoutez, Chantal Leroux, il y a des présentateurs socioculturels qui pèsent plus que la raison, plus que le droit. Aujourd'hui, vous voyez, au Tchad, nous n'avons pas le code de la famille. On n'a pas le code de la famille tout simplement parce qu'il y a certains présentateurs socioculturels qui pèsent plus, qui parlent plus que le droit commun, qui parlent plus que la raison. Et les gens ne peuvent pas prendre des décisions. Aujourd'hui, les familles et les sociétés prennent des décisions à la place des couples nucléaires, mononucléaires. Vous voyez un peu ?
Je vois. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous ne voyez pas les choses évoluer dans la jeune génération? Ou bien est-ce que quand même, il arrive à de jeunes couples de décider, par exemple, de ne pas avoir d'enfants ou de continuer, de rester ensemble, même si ils ne peuvent pas en avoir?
Écoutez, Chantal Leroux, il y a à peu près 2-3% de ces personnes de cette nouvelle génération qui tentent aujourd'hui d'aller faire des examens prénuptiaux, n'est-ce pas, pour voir le sens de la procréation. Mais
c'est très peu, c'est encore minoritaire.
Ils sont très peu, c'est pas facile. Mais la lutte est continuelle. Moi, par exemple, je suis en train de lutter dans mon association afin que les gens puissent progresser dans cette directive. Il ne s'agit pas, quand on se marie, on ne se marie pas pour des enfants d'abord. On se marie parce qu'on s'aime et les enfants viennent après. Et on a plusieurs méthodes aujourd'hui. Et la méthode in vitro, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Tchad, nous avons un hôpital très moderne, post-sophistiqué.
Mais est-ce que c'est accessible ou est-ce que ça coûte cher? Puisque Charlie nous disait tout à l'heure que ça existe aussi au Gabon, mais ça coûte très cher.
Écoutez, quand on a besoin d'atteindre un objectif, on le fait. Aujourd'hui, le mariage au Tchad, vous allez voir des gens qui vont payer 4, 5, 6 millions pour se marier. Alors, pour faire un enfant in vitro, ça ne va pas coûter 4, 5, 6 millions.
Merci beaucoup.
Donc, tout dépend.
Merci beaucoup, Gédéon, pour votre témoignage. On va partir pour Ouagadougou, d'où nous appelle Mohamedou. Bonjour.
Bonjour, Chantal, et bonjour à toute votre équipe.
Alors, Mohamedou, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vient de raconter Gédéon? Est-ce que l'infertilité est également un sujet tabou au Burkina Faso?
Oui, je me reconnais en partie seulement, parce que les réalités en Afrique sont un peu partout les mêmes, sauf que je n'ai pas l'impression qu'au Burkina, ce soit un sujet aussi tabou. Je pense que c'est un sujet sensible, on peut dire sensible, mais pas un sujet tabou, parce que les gens acceptent d'en parler, les gens acceptent au regard de la situation qui est difficile d'approcher. Lorsqu'on est en milieu urbain, des spécialistes, lorsqu'on est en milieu rural, de trouver des palliatifs à la difficile situation de l'infertilité au sein du couple. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que dans le cas du Burkina, ce soit un sujet très tabou. Il est sensible, comme ailleurs, comme au Gabon, comme au Tchad, il est sensible, mais je ne pense pas qu'il soit tabou. Et en termes de solutions, on peut trouver dans nos sociétés, par exemple, lorsque l'infertilité vient de la femme, il peut arriver que la femme accepte que son mari contracte un autre mariage pour pérenniser, on va dire, le nom du mari en question. Lorsqu'on est en milieu urbain, les solutions que vous avez évoquées tout à l'heure existent. La procréation médicalement assistée, par exemple, ou bien l'adoption, de plus en plus au Burkina, l'adoption ça se développe. Avant, les adoptions, c'était les expatriés qui venaient pour les adopter des enfants burkinabés. Mais de plus en plus, des Burkinabés, sur le plan national, adoptent des enfants nés au Burkina. Donc, c'est des solutions que les gens utilisent. J'ai entendu qu'au Tchad, il n'y a pas de code des personnes. Au Burkina, nous avons un code des personnes depuis 1991, qui a pris la suite du code civil. Mais donc, ces solutions-là sont utilisées. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on ne soit très à même sur les réalités entre le Burkina et puis le Tchad. Seulement, ce que je vois, c'est que la communication sur ces sujets-là, la communication même institutionnelle au niveau de l'État, du ministère de la Santé, des associations, la communication manque un peu. Peut-être c'est ça aussi qui fait que ça reste un peu sensible.
Alors justement, Faro Ansouman nous écrit de Conakry, il faudrait introduire l'éducation sexuelle dans les programmes d'enseignement. Vous êtes d'accord avec ça, Mohamedou? Est-ce que chez vous, on parle à l'école d'éducation sexuelle?
Oui, on parle pas d'éducation sexuelle en tant que telle, mais l'éducation civique et morale, on en parle. Et puis les méthodes de contraception, à un certain niveau de l'éducation, les curricula au niveau de l'éducation nationale en parlent. Voilà, ce n'est pas à l'école primaire, certes, mais à un certain niveau, au niveau du secondaire et puis à l'université certainement. ces programmes-là en part.
Merci beaucoup.
Je suis d'accord avec cette approche.
Merci beaucoup, Mouhamadou. Bonne journée à Ouagadougou. On part pour Bamako. Bonjour, Djoumé.
Bonjour, Chantal. Bonjour à toute l'équipe RFI.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe au Mali quand un couple se retrouve face à un problème d'infertilité, quel soit le fait de l'homme ou de la femme?
Ah non, quand même, au Mali, vraiment, c'est un sujet tabou. Quand les jeunes se marient déjà, après 3 mois, 6 mois, une année et demie, 2 ans, la belle famille commence à s'interférer. Ils commencent à guetter la femme, ils commencent à parler, et la femme est sujet de toutes sortes de fardeaux. Et vraiment, c'est très difficile, c'est trop mal vécu au Mali ici. On ne pense pas du tout à l'homme. Automatiquement, quand il y a l'infertilité, on ne pense même pas que ça peut être chez l'homme. Mais c'est la femme qui est accusée d'emblée.
On cherche
toujours à ce que l'homme se remarie encore pour avoir des enfants.
Et la femme ne tente pas de faire des examens médicaux ou de convaincre son mari d'en faire pour savoir d'où vient le problème et si c'est possible d'y remédier?
Chantal, je vous dis que toutes les défunts des examens, ils savent pertinemment que le problème existe. Même si l'homme sait que le problème vient de lui, il ne donne pas l'information à sa famille. Et il voit la famille taper sur la femme, il essaie de défendre en cachette sa femme parce qu'à aucun cas, il ne peut pas l'exposer dû au fardeau de la société. Je vous dis un cas, j'ai un parent proche, un jeune couple de moins de 40 ans qui sont mariés depuis 5 ans. Et nous-mêmes qui sommes les parents, nous savons que le problème vient de notre frère. Nous savons que le frère et sa femme sont en train de se battre coûte que coûte pour trouver des enfants. Mais malgré tout, les parents, il y a une grande partie des parents qui cherchent à ce que le monsieur se remarie. Peut-être que sa chance pour faire des enfants avec cette femme n'est pas faite. Donc pour eux, quand il va se marier avec une autre femme, il va trouver des enfants. Alors qu'en réalité, le monsieur même sait que le problème vient de chez lui. Ils ont fait des examens, ils ont voyagé, ils sont allés à l'extérieur, tout. Mais malgré tout, la femme subit des préjudices. Donc ça, c'est une façon générale au Mali ici. C'est très rare que tu trouves un couple sans enfant, que la femme ne subit pas des brimades de la belle famille. Ça, c'est un fait qui est là. Les femmes en vivent mal au Mali.
Et est-ce que les couples confrontés à l'infertilité pensent à l'adoption? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu au Mali ou qui reste rare?
C'est très rare, très très rare. Les gens de l'extérieur viennent adopter les enfants ici au Mali, mais au Mali, ici à l'interne, c'est très très rare. Souvent, les parents proches donnent leurs enfants en adoption, mais au finish, ça ne finit pas en bon terme. Tu trouveras que ça se casse au fur des années. L'adoption, au vrai sens du mot, pour garder l'enfant, c'est une idée qui n'est pas trop trop développée au Mali. Tu peux trouver 2 ou 3%. C'est pas du tout développé au Mali.
À cause du poids des traditions, du poids de la religion, à cause de quoi?
Bon, à cause de tous ces facteurs-là, il y a la société, il y a le poids de la tradition, il y a les on-dit qui sont là. Parce que tu as beau élever un enfant, tu as beau adopter un enfant, on dira que ce n'est pas ton enfant. Toi, tu as beau changer même le nom de l'enfant, tu trouveras des gens à côté, c'est les à côté qui tuent la société. Tu trouveras les gens qui vont appeler l'enfant quand il va grandir. Ce n'est pas tes vrais parents. Donc, tu ne peux pas faire de cet enfant-là le tien. Donc, ça, c'est vraiment une situation très, très délicate, très difficile que nous vivons au Mali ici. Et bon, avec l'évolution, on espère que ça va changer.
Merci. Merci beaucoup, Djoumé, d'être intervenu dans ce débat d'appel sur l'actualité. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica, Yasmine, Adrien, Audrey, Valentine et Théophile. Sans oublier Alice à la réalisation et Pauline au standard. On se retrouve demain, le vendredi. Vous le savez, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez d'intervenir, de commenter le sujet d'actualité qui vous intéresse ou qui a retenu votre attention pendant la semaine. On vous attend au 33 9 693 693 70 ou sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. À demain.
At
Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.